chapitre 2.
Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice.
Et je suis Cécile.
Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Serena Giuliano avec nous. Bonjour Serena.
Bonjour fille. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
J'ai bien dit Giuliano, c'est bon?
Giuliano.
Parfait.
Tu l'as très bien prononcé. Merci.
Alors, dans le chapitre 2, on aime bien que nos invités se présentent comme ils le souhaitent. Donc, Serena, je te laisse te présenter.
Alors, ma bio Instagram dit que je suis italienne, mais que j'ai aussi des défauts. Je crois que c'est plutôt une bonne façon de se présenter. Alors, je suis romancière aussi. Et mon sixième roman arrive tout juste en librairie. Je crois que c'est pas mal, ça, comme présentation. Ouais.
C'est parfait.
C'est court.
C'est très bien.
C'est parfait. C'est parfait. J'aime bien, tu es italienne, mais tu as aussi des défauts.
Oui. C'est...
tu le revendiques.
La liste est longue, tu vois.
Oh, mais tu le revendiques côté italienne. Tu le gardes vraiment précieusement, ce...
Bah oui, c'est un peu, ça fait partie, enfin, c'est mon identité. Oui, je me sens italienne avant toute autre chose, je crois.
D'accord. Mm. Ok. Alors qu'aujourd'hui, ça fait quand même plus de la moitié de ta vie que tu as passé en France, on est d'accord?
Plus que ça, même. Ouais. Oui, plus que ça. La France, je dis souvent que la France est ma mère adoptive et l'Italie, ma mère biologique. Donc, je ne choisis pas du tout entre les deux, mais je suis bien aujourd'hui entre ces deux pays et j'aime les deux. Mais je suis, de fait, 100% italienne.
Qu'est-ce que je voulais demander? Tu disais sixième roman, c'est ça?
Sixième roman, Félicita. Ouais. Oui.
Félicita qui sort. Six ans, ouais. C'est un par an. C'est waouh.
C'est un bon rythme, je crois.
Ah oui, ça doit être aussi très intense quand même.
J'ai la chance d'écrire assez rapidement, mais je trouve que j'ai trouvé mon rythme. Je m'impose rien. Je ne sortirais pas un livre par an si j'avais pas l'idée.
La tière, oui.
Qui va bien, voilà. Mais pour l'instant, c'est un rythme qui me convient.
Ah bien, en tout cas, nous, ça nous convient bien aussi, hein, puisque moi, je suis fidèle tous les ans. Je sais que je vais avoir au mois de mars en général, puisque c'est ton mois, hein, c'est le mois à laquelle tu sortais.
Bah, tu sais, moi, je suis hyper superstitieuse, ça, c'est mon côté napolitain. Et donc, comme ça avait très bien commencé avec Ciao Belle au mois de mars en 2019, eh bien, j'ai gardé le rendez-vous. Et puis, j'aime bien avec l'arrivée du printemps. Là, tu vois, on met l'hiver de côté, on passe aux beaux jours, aux fleurs, à la vie, aux journées qui s'allongent un petit peu. Et avec la nouveauté du livre, ça fait un renouveau comme ça.
Et ton roman sort demain, puisque sur cet épisode, par le 6.
Il sort demain. On est un peu dans le futur, c'est vrai.
Voilà. C'est ça. Donc, ton roman sort demain. Comment tu te sens à la veille de cette sortie, du coup?
Je suis toujours hyper stressée, je suis vraiment dans ma bulle, souvent chez moi. Alors non, je dis n'importe quoi parce que la veille, je suis souvent en dédicace à Metz, dans ma ville, pour le lancement du livre. Et donc, j'ai la chance de recevoir depuis 6 ans donc une vraie bouffée d'amour de mes lectrices fidèles messines qui sont au rendez-vous et ça fait du bien. C'est parce que sinon, je suis toute seule dans mon coin à stresser, tu vois. Donc là, en général, je prends 2-3 heures d'amour et de bienveillance et de gentillesse et je me dis, ok, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que chaque année, je stresse et pour ensuite recevoir tout cet amour-là. Donc, ça vaut la peine.
Ah, tu le fais à chaque année, tu fais avant le roman, la sortie officielle.
Oui, ça fait partie des superstitions aussi, tu
vois, du rituel. C'est génial.
Oui, je commence toujours par Metz parce que c'est une librairie qui m'a toujours soutenue et depuis le départ. Et puis ça permet à mes amis, à ma famille d'être là. Et je trouve ça chouette. Et du coup, la veille de la sortie officielle.
Alors, pour te connaître un petit peu mieux, Serena, nous avons un petit jeu qui s'appelle le tac au tac. Tu sais, alors, toutes les personnes qui aiment Friends, tu connais le jeu de Phoebe qu'elle fait, fameux jeu pour prendre des décisions rapides.
Pour trancher, tout à fait.
Trancher. Oui. Et donc, le but, c'est de répondre, la première chose qui te vient à l'esprit.
Ok. J'ai peur de mon esprit, donc j'ai peur de dire des choses, mais allons-y.
Ok, donc tu es prête, c'est bon. On y va. Thé ou café?
Thé. De plus en plus.
C'est vrai, ouais. Je pensais café, que tu allais me dire café pour le côté italien.
Non, j'étais très longtemps café, et puis, alors en France, j'en bois très peu, parce que, mais en Italie, je suis 100% café, mais en France, je bois plus de thé. Ouais.
D'accord, ok. Mm. Tu vois, déjà, je pensais pas là. Mer ou montagne?
La mer. J'ai le mal des montagnes. Je savais même pas que ça existait. Et puis je l'ai expérimenté sur.
C'est vrai.
Ça existe. Ouais. Non, j'ai vraiment le mal de la montagne. Je suis pas bien en altitude et moi il faut que je sois à ras du sol près de la mer.
Ouais. Donc, je savais pas que ça existait ça.
Mmh. Ouais. Non, mais ça existe. Ça donne. Enfin, c'est une sensation très étrange et oppressante. Moi, j'avais du mal à voir toutes ces montagnes autour qui me. J'avais l'impression d'être d'étouffer. Alors, on te dit que tu respires mieux à la montagne. Moi, je respirais pas bien du tout. Donc,
t'as la même été ou hiver.
Évidemment, l'été. Et le soleil, et la chaleur, et la plage, et les cocktails.
En plus, t'habites dans une région qui est pas très chaude de base.
C'est pour ça que je suis passée du sud de l'Italie à l'est de la France, si tu veux, le choc thermique.
Ouais, c'est clair.
Et palpable.
Sucré ou salé?
Salé.
Beaucoup. Ah, d'accord.
Salé. Ah oui. Les chips, le saucisson, tout ça. Beaucoup plus que le chocolat. Ouais.
Pizza ou pâte?
Pâte.
Ah, d'accord. Plutôt pâte. Mmh.
Oui. Ah oui, les pâtes toute ma vie. Là, j'adore la pizza, évidemment, mais les pâtes tous les jours, sans problème.
Marque-page ou corner les pages?
Ah, je sais qu'il y a une team qui va me détester, mais moi, non seulement je corne mes pages, mais je laisse mes livres traîner. Ils sont gondolés par l'eau. Il y a du sable dedans. Je les plie. C'est terrible. Je les maltraite. Je surligne. Vraiment, je suis.
Ah oui.
Ah ouais. Je sais que la team hyper.
On ne touche pas les livres. Oui, voilà.
On ne touche pas les livres. Me déteste. Mais j'adore qu'on fasse ça avec mes livres quand en dédicace.
D'accord.
Des lecteurs ou des lectrices viennent me voir avec le livre tout corné, ou tu sais, avec plein de petits stickers, et que je vois que le livre a vécu, qu'il a été... pour moi, un livre, c'est un doudou. Donc, on l'emmène partout, on le sort quand on en a envie, on le laisse traîner comme ça un peu partout, et parce qu'il est là, il est rassurant. Et donc, quand je vois que mes livres sont dans cet état, je me dis, bon, c'est un livre qui a été beaucoup prêté ou qui a beaucoup traîné avec la personne qui l'a lu, et c'est plutôt bon signe pour moi, donc, parce que c'est comme ça que je me comporte avec les livres que j'aime, donc
oui.
J'aime bien qu'on fasse ça à mes livres. Ouais.
Oui, donc tes livres chouchous, ils sont pas très présentables.
Ah ouais, non, mais j'y tiens, enfin j'adore qu'ils soient comme ça, et vraiment j'ai un rapport à ça, j'ai pas le truc du livre un peu objet sacré, au contraire, pour moi un livre ça doit être vivant. Et j'adore trouver des annotations à l'intérieur. Je trouve ça super.
Ok. Bon, la prochaine, je sais pas si elle est dure ou pas pour toi. On va voir. Joey ou Chandler?
Chandler.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Ah, je pensais que tu l'aurais dit. Ouais, pourquoi Chandler, du coup?
Chandler, il est plus touchant. Il est. J'ai un peu le même fonctionnement que lui où on se sert de l'humour un peu comme bouclier, tu vois, et puis je trouve qu'il a une personnalité beaucoup plus intéressante et plus... Ah, il a un peu écorché vif, Chandler, donc ouais. Je le trouve plus touchant. J'adore Joey, évidemment, je les aime tous de toute façon, mais...
Oui.
mais clairement, Tim Chandler.
Tu as travaillé avec Matou, là, sur une BD, on en reviendra tout à l'heure. Ouais. Ça t'a fait quoi, du coup, j'allais te demander, tu préfères travailler toute seule ou avec quelqu'un? Mais bon, tu as fait qu'une expérience, alors je sais pas si tu peux vraiment...
Mais c'est totalement différent. Je sais pas si je pourrais écrire un roman avec quelqu'un. Ouais. Peut-être que si, mais là, c'est complètement différent parce que chacune avait sa partie. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. J'avais mon histoire et puis qu'elle la mette en image, de découvrir ses dessins au fur et à mesure. Ça a été une expérience formidable. Et j'ai adoré. J'espère qu'on en fera 1000. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, mais c'est complètement différent comme exercice dans l'écriture, dans la façon de faire. Ça n'a rien à voir, je trouve, avec le roman. Donc, je ne sais pas si je pourrais le faire sur un autre projet. Mais en tout cas, j'ai adoré.
Et c'était pas dur, ça, justement, l'idée que tu pouvais avoir en tête de ton histoire, de lui expliquer exactement ce que tu voulais déjà. Est-ce que tu lui as expliqué ou est-ce que tu...
Alors, sur certaines scènes, je lui expliquais parce que c'était assez clair dans ma tête. Et sur d'autres, c'est elle qui me proposait des choses, et puis on en discutait ensemble, et elle est super Matou, parce que vraiment, je crois que l'une et l'autre, on s'est rien imposé. Alors, j'ai écrit l'histoire, donc de fait, j'ai quand même imposé
le scénario,
les yeux, les personnages, etc. Voilà. Mais on a beaucoup échangé. Et en fait, ça a été vraiment un travail d'équipe sur ça, sur les dessins, où elle me disait « Moi, je le vois comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait le faire ?» Enfin, ça a été vraiment hyper intéressant, ces échanges-là. Et donc, ça a été, oui, des échanges et des… bon, on tombait souvent d'accord sur… sur les expressions de Nina, sur Bruno, qui était qui est clairement mon préféré des deux, et donc non, ça a été un vrai travail d'équipe et c'était pas dur du tout de, en fait, ce qui aurait été difficile, parce que quand j'ai pensé à cette histoire, je l'ai de suite imaginé avec les dessins de Matou dessus, tu vois, pour moi Nina et Bruno, ils avaient la tête des personnages de Matou, et donc ça avant même de lui demander, donc si elle était partante. Donc je me dis, si elle ne peut pas ou qu'elle en a pas envie, ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre qui dessine. Tu sais, quand tu as déjà une idée précise en tête, d'ensuite de devoir te contenter d'autre chose. Bon, Dieu merci, elle a dit oui. Donc le problème ne s'est pas posé. Et donc ça a été vraiment une super expérience. Et là, on travaille déjà au deuxième, donc c'est chouette.
On a quelques petites questions un peu générales avant d'aller dans dans l'actualité de toute fraîche qui arrive bientôt. Alors, tu étais influenceuse avant de devenir écrivain, avant de te lancer. Qu'est-ce qui a fait justement qui t'a donné cette impulsion d'y aller?
Alors, c'est plus le blog, en fait, parce qu'avant d'être influenceuse, j'étais blogueuse. Et en fait, c'est le blog qui m'a donné envie. Enfin, j'ai toujours écrit, mais j'écrivais pour moi. Le blog m'a ouvert, m'a donné des lecteurs. Et j'ai pris plaisir à avoir leur retour. En fait, je ne savais pas que mes mots allaient provoquer ça quand on me disait tu m'as fait rire, ou tu as réussi à mettre les mots justes sur ce que je ressens, ou tu m'as ému. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Et très vite, j'ai pris goût à ces retours. Ça, c'est devenu un peu après une drogue, tu vois. T'as envie d'écrire plus pour en avoir plus. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pris vraiment plaisir à écrire pour les autres et de partager mes écrits. Et puis, à partir de là, comme c'était quand même un blog assez centré sur la maternité, j'avais envie de parler d'autres choses, d'évoquer d'autres sujets. Donc, c'est assez logiquement que je suis venue au roman, même si... Je croyais pas du tout en être capable. C'est notamment Virginie qui m'a poussée à y aller vraiment. Et voilà. Et puis, encore plus de lecteurs, donc encore plus envie d'écrire. C'est un peu
un cercle vicieux.
Une spirale.
Ouais,
c'est super. Super, vraiment. Je pense, c'était même pas un rêve dans ma tête. C'était jamais je n'aurais pensé pouvoir un jour vivre de ce que j'écris. Ça me semble encore assez fou.
Et moi, j'ai une petite question. Tous tes romans se passent en Italie. Donc, tu écris en français et ça se déroule en Italie. Est-ce qu'un jour, tu te verrais écrire en italien pour parler de la France?
Je ne sais pas. C'est très bizarre parce que pour l'écriture, vraiment, le français me vient plus naturellement. Alors non, c'est pas bizarre parce que j'ai clairement maintenant passé plus de temps en France et fait mes études supérieures en France. Alors que pour mes pensées personnelles, dans mes carnets perso, j'écris toujours en italien. Donc, c'est comme si mon cerveau faisait la part entre ces deux choses, entre le récit, la fiction et la réalité. Et la réalité, fait appel à ma langue natale et la fiction au français. Et donc, je ne sais pas si je serais capable d'écrire un roman complètement en italien. Mais je n'exclus pas d'écrire des romans en français qui se passent ailleurs qu'en Italie. Un jour, encore une fois, je m'impose rien et en général, ce sont les personnages qui choisissent. Donc voilà. Mais un roman complètement en italien, je ne sais pas.
Serena, je me posais des questions comme ça là. Tu parles chez toi, tu parles quoi?
Un mélange de deux langues plus le napolitain, donc c'est une langue
chez
assez
chelou. Chez toi avec tes enfants et ton mari?
Ouais.
D'accord. Ah, je pensais que tu parlais français avec eux, de base.
Non, alors, on parle français parce qu'entre eux, ils parlent français. Et puis, la plupart du temps, oui, je parle français. Mais avec les gens qui comprennent l'italien, je parle un mélange des deux langues. Et le napolitain en plus, parce que c'est vraiment une langue à part entière.
Oui.
Et donc, c'est un joyeux mélange de ces trois langues-là, qui est pour moi la langue idéale, parce qu'évidemment, du coup, mon cerveau n'a pas besoin de choisir et ça sort comme ça vient, tu vois. Il y a des mots qui, naturellement, me viennent plus en italien, donc je ne prononce jamais en français, et mes enfants connaissent aussi que ces mots-là qu'en italien, parce qu'ils les ont toujours entendus. Donc, même si, bien sûr, le français est plus présent au quotidien parce que eux s'expriment en français.
Oui, d'accord.
Ma langue idéale, c'est un mélange de tout ça. Et eux, ils comprennent, ils font avec, hein, ils ont pas le choix.
Puis il y a des mots qui sont pas forcément de correspondance, la même correspondance.
Oui, c'est ça. Qui ont pas la même force, qui veulent pas le dire exactement la même chose, je trouve. Et donc quand j'ai pas besoin de sélectionner la langue et que je peux y aller en modalité, sans réfléchir, c'est génial pour moi.
Oui, oui, que c'est, donc, ça c'est sort.
De faire la même. Voilà.
Et on te comprend, quoi qu'il en soit, on te
voilà,
comprend.
Voilà.
Ouais, ouais, je comprends. Ah, j'ai une question marrante. Si tu avais une lampe magique, tu avais trois vœux que tu pouvais réaliser que pour toi, vraiment très égoïste, hein, parce que
pas la peur du monde. Genre pas sauver le monde.
Voilà, c'est ça. Non, on va rester très terre à terre.
Pas Miss France.
Non. Bah, si tu veux, mais. Si tu veux être Miss France, tu veux. Mais
non, je disais pas des vœux style Miss France.
Ah oui, non, pas du tout. Vraiment que pour toi. Ça serait quoi, trois vœux vraiment pour toi?
Je crois que le tout premier, ce serait de pouvoir continuer toute ma vie à faire ce que j'aime, ouais, à écrire et à avoir des lecteurs, de pouvoir partager ma vie entre la France et l'Italie comme j'en ai envie. Et bon, on a dit qu'on c'était pas la santé et tout, parce que là je me sens très égoïste, hein. Là, on va dire que tout le monde a tout, la santé, tout,
oui,
ça,
ouais, bien sûr, tout le monde va bien, le génie, il te fait des vœux que pour toi, il s'en fiche,
d'accord, j'imagine que j'ai pas le droit non plus de demander au génie d'avoir des vœux illimités. Je peux pas, c'est tricher,
ça c'est là, il y en a qui ont essayé, ça pas marché.
Non, et puis attends, manger des pâtes autant que je veux et pas faire de sport, et ouais, continuer à être génial, en forme, ça. Ça, c'est bien, non?
Oui. Ouais.
Non, mais en vrai, tes rêves, ils sont déjà un peu réalisés. Parce que tu vis de ton art, de ton écriture.
Oui.
Tu partages ta vie.
Ça va durer jusqu'à la fin de ma vie, je ne sais pas.
Ça va durer jusqu'à ce que tu en aies marre, plutôt.
Bon, ça, je pense que j'en aurais pas marre. Je pense que j'ai vraiment, tardivement, que j'ai trouvé ma voie. Et donc, oui, j'espère juste que ça dure, en fait. Parce que je veux pas forcément, je sais pas, vendre des millions de livres. Enfin, je dis pas non, hein, mais je veux dire, tant que je peux juste continuer à en vivre.
Oui, oui, bien sûr. Je ne
vais pas dire ce que j'ai pas dit. Si ça,
non,
si
non,
ça
arrive, elle peut
acheter
en vendre
par millions mes livres.
Allez-y, allez-y.
Mais juste là, que ça se maintienne comme ça et que je continue à faire ce que j'aime et à pouvoir en vivre et faire plaisir à ma famille, à mes enfants, ce serait super. Et à mes lecteurs aussi.
Ouais.
Et entre la France et l'Italie, ouais, on n'y est pas encore tout à fait parce que
la vie.
Le petit de mes fils est encore petit et
il a
encore besoin de maman au quotidien. Et puis je peux pas le déplacer comme ça comme je veux parce qu'il a école, il paraît. Alors,
oh là là.
C'est surfait, franchement.
Bon, il y a les vacances scolaires en vrai.
Il y a les vacances scolaires, ouais. Mais j'adorerais pouvoir vivre l'hiver en France et à partir du printemps en Italie.
Ça, ah oui. Super. Ah, je pensais que tu ferais l'inverse, tu vois.
Non. Ah, bah, non, l'hiver en Italie, c'est chiant parce que les maisons sont pas faites pour le froid, c'est humide, c'est.
Ouais, ok.
Ouais.
C'est plutôt dans ce. Le oui, je comprends. Mais après, le climat, il est plus sympa quand même, enfin, au niveau de l'Italie.
Oui.
Voilà,
oui,
l'hiver,
oui,
quoi.
C'est plus doux,
froid.
Ouais, bien sûr.
Ouais, voilà.
Et bon, moi, j'ajoute une petite question vœu. Si tu pouvais voir n'importe lequel de tes romans adaptés, ce serait lequel? Là, comme ça, on te dit, je l'adapte.
Je crois que ce serait Sara Perché Ti Amo.
Ouais.
Parce qu'à mon avis, c'est celui qui s'adapterait mieux à une série. Je le vois hyper bien en série, une série de quelques épisodes, tu vois. Je l'imagine bien en série depuis le début. Et j'aime beaucoup cette histoire de sororité entre ces deux femmes qui se rencontrent. Et puis, il aborde des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, là, comme ça, je te dirais celui-là, mais en vrai, je les aime tous, donc c'est compliqué de choisir, mais comme ça, ouais. Peut-être celui-là, une série, je me dis qu'il se passe sur une île en Italie et tout. Je trouve ça hyper visuel. Ça pourrait être assez joli à voir. Je crois.
Moi en vrai, je vois le prochain aussi, hein. Qu'est-ce que ça me passe?
C'est vrai.
Avec les mariages et tout. J'ai eu la chance de lire
la
première, le livre de Serena, et avec, donc, c'est une organisatrice de mariage. Et du coup, effectivement, je trouve que c'est très visuel, les mariages, ce que tu décris dans ton livre.
Ah, ben, le lac, oui, en plus, l'endroit est assez dingue, ouais.
Et, c'est ça.
Mais tu sais, je les réfléchis tous un peu comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'images. Oui. Enfin, j'ai les images avant d'avoir les mots. Je les vois vraiment comme des films ou des, dans ma tête, c'est comme un film qui se déroule. Donc, j'adorerais voir ça en vrai parce que c'est comme ça que je les imagine, en tout cas.
Ok.
Toutes mes histoires.
Bon, avis aux producteurs, si vous avez besoin de scénario, d'histoire qui se passe en Italie, on a envie de voyager en plus, là c'est parfait. Allez chercher Serena. Bon, allez, c'est le moment de la Madeleine de Proust. Alors, tu vas voir. Okay. Alors, moi, j'aime bien, ça fait un peu séance psy, hein. Tu verras.
D'accord. Au moins, chez vous, c'est gratuit parce que moi, la mienne, voilà. Je pense que je l'ai payé une villa dans le sud.
Ouais, la mienne aussi.
Ici, c'est gratuit. C'est bon, et puis, c'est mignonné. Donc, ça fait pas pleurer en général. Donc, voilà.
Alors, la Madeleine de Proust, donc, on pose des questions à l'enfant que tu étais. S'il y a des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre, il n'y a pas de souci, tu me dis en switch. Est-ce que tu es prête?
Je crois, allons-y.
Alors, Serena, c'est quoi l'Italie de ton enfance, si tu devais nous la décrire en une saveur, une odeur, un lieu, quelque chose comme ça?
L'odeur de la mer, clairement, des promenades le long de la mer avec ma grand-mère et de la glace à la nocciola, noisette et fragola, la fraise. Ça aurait ce goût-là, je pense, et cette odeur-là. Mmh. Puis le soleil, la sensation du soleil sur ma peau, des pieds nus sur le sable, vraiment, vraiment ça.
Ok. Et une musique qui te rappelle, quand tu l'entends, même adulte, tu te dis, t'as le petit truc là au cœur qui te fait penser à quand t'étais petite.
Je pense que ce serait une chanson napolitaine, n'importe laquelle. Ouais, une chanson napolitaine. Qui ont été présentes dès ma naissance et qui sont vraiment, la langue napolitaine est une langue très belle, très riche, très poétique. Et les chansons, notamment les chansons d'amour napolitaines, sont magnifiques. Et moi, j'ai été percée à ça. Donc, n'importe quelle chanson napolitaine, je suis instantanément chez moi en Italie.
Je connais pas du tout la langue, en tout cas.
Ouais.
C'est pas évident.
Je pense que tu as déjà dû entendre quelques chansons. Il y a des chansons très Caruso, par exemple, au Solemi, c'est un napolitain. Donc,
d'accord.
Sans le savoir, peut-être que c'est du napolitain. Oui. Tu as déjà forcément entendu ces chansons-là.
Ok. Une autre petite question. Comment s'appelait ta meilleure amie quand tu étais enfant et en quoi elle a laissé un souvenir impérissable?
Elle s'appelait Lella. C'est le diminutif de Raphaël. Mmh. Et en quoi elle a laissé un souvenir impérissable? Oh, c'était un peu comme une sœur. On était vachement livrés à nous-mêmes enfants en Italie. En plus, on vivait dans un petit village de 800 habitants, donc tout le monde se connaissait. Donc dès toute petite, enfin, on partait toute seule à l'aventure. C'était la liberté totale. C'était avant les téléphones, etc. Et ouais, elle m'a donné le goût à la liberté. Puis elle osait. Elle était un peu je déteste cette expression, mais c'est la seule qui me vient, garçon manqué. Enfin, dans le sens où elle avait peur de rien, et moi j'étais hyper peureuse déjà à l'époque, hyper angoissée, et puis elle m'entraînait dans des aventures hyper, quand j'y pense, hyper dangereuses. J'aurais détesté que mes enfants fassent des trucs comme ça. Mais elle m'a donné ce goût-là, le goût du frisson, du risque, et elle m'a donné un peu de courage aussi. Donc, c'est ce que je garde d'elle, et j'ai toujours des contacts avec elle. On essaie de
voir quand t'as gardé contact?
Oui, bien sûr.
Trop bien. Merci beaucoup. Tu vois, ça va, c'était doux.
Oui, c'était très doux.
Et est-ce que l'aile, là, tu t'en inspires un petit peu pour Azzurra ou pas du tout?
Non, alors, non. Je crois que Azzurra, enfin, la relation entre Valentina et Azzurra, c'est vraiment un mix de toutes mes amitiés les plus fortes, de l'amitié en général, qui pour moi est un pilier tellement important dans ma vie, les femmes de ma vie, je pourrais pas, je dis souvent que c'est terrible, hein, mais je pense que je pourrais vivre sans mari. Alors, pardon, chérie, si tu n'entends pas. Mais...
si tu écoutes ça, c'est un aparté.
Mais mes amis, c'est elles qui me tiennent debout, quoi. C'est un moteur au quotidien, c'est une force. Sans elles, clairement, je ne serais pas là. Et donc, par le biais de cette relation d'amitié dans mon roman, je voulais rendre hommage à cette amitié-là qui me fait tellement de bien au quotidien. Et donc, c'est vraiment un mix de toutes les belles amitiés que j'ai la chance de vivre. J'ai pas énormément d'amis. Elles se comptent clairement sur les doigts d'une main, mais elles sont si fortes, si présentes au quotidien que pour moi, c'est vital tout simplement.
Et c'est ce que tu as voulu, donc tu as voulu un peu dédier ce livre, enfin cette amitié, c'était un peu tes amis, c'est ça?
Oui, oui, complètement. On parle de... C'est elle qui m'en donnait envie de raconter encore une histoire d'amitié, parce que c'est pas la première. Que
non, c'est vrai.
Dans mes livres, l'amitié est toujours très présente. Mais j'avais envie de cette d'une belle histoire d'amitié, de même si elle se termine pas bien, mais ça a été une belle histoire avec des hauts et des bas, avec des incompréhensions, avec des disputes. Une amitié qui dure une vie, c'est ça en fait. C'est comme une relation d'amour. C'est jamais forcément. Enfin, c'est impossible que ce soit tout beau, tout rose, tout le temps. Mais des vrais amis, c'est là tout le temps, même quand ça va pas, ça se réconcilie, ça se dispute, c'est ça. Pour moi, l'amitié sincère, et c'est de ça dont j'ai envie de parler.
Oui, et dans Felicita, donc ton nouveau roman, c'est effectivement c'est la relation amicale et au centre de l'histoire complètement. Elle n'est pas secondaire par rapport. J'ai trouvé moi par rapport aux autres romans que tu écris, oui. Là vraiment c'est l'amitié qui est au-dessus de tout le reste.
Oui, c'est une histoire d'amitié. Je raconte une histoire d'amitié. En vrai, c'est Valentina qui raconte cette magnifique histoire d'amitié à sa filleule pour rendre hommage à Azzurra. Et clairement, c'est le fil rouge du roman. Oui. Donc, c'est vraiment pour moi un roman d'amitié.
On a le privilège d'avoir un extrait de Felicita. Qui paraît le 7 mars aux éditions Robert Laffont, et c'est Cécile qui va nous lire vraiment la toute première page de ce roman pour vous mettre vraiment dans l'ambiance et vous donner envie de courir en librairie ou le procurer.
Le soleil brille comme jamais. Non mais comment hostile ? Le ciel devrait être à mon image, en larmes. Il devrait pleuvoir comme je pleure, pleuvoir tout ce qu'il a dans le ventre, gronder, afficher une sale mine. Il m'est tombé sur la tête il y a 48 heures. Pourtant, il a déjà repris sa place. Tout bleu, tout beau. Comme si de rien n'était. Comme si on pouvait continuer de vivre alors que je n'arrive plus à respirer. Je serre ma filleule dans mes bras. Elle est comme le ciel, radieuse. À un an, rien n'est grave, à part un jouet cassé ou un petit bobo au genou parce que le pas n'est pas encore assuré. J'enfouis mon nez dans ses bouclettes brunes, j'inspire profondément et j'essaie de calmer mon corps qui tremble. Du jour où Bianca est venue au monde, tu as eu ce parfum, celui de ta fille. Comme si elle et toi n'étaient qu'une seule et même personne. Tu l'as tellement attendue, tellement rêvée, cette petite fille. La quitter ne serait-ce qu'une minute te rendait malade. Comment va-t-on faire, elle et moi, maintenant que tu n'es plus là?
Oh, il est trop beau, cet extrait.
C'est magnifique.
C'est super joliment lu.
Non, mais ça t'a fait quoi de l'entendre, Lulu?
Ah, ça me fait des frissons. Je sais pas comment on finit, mais c'est une journée avec beaucoup d'émotions pour moi.
Ouais,
mais là, je suis à fleur de peau, mais c'était très joliment lu. Et puis, pour moi, c'est des personnages, tu sais, mes personnages, ils existent vraiment dans ma tête. C'est des amis. Ils sont là, je pense souvent à eux, à ceux-là et à ceux des autres romans. Donc là, quand j'entends quelqu'un d'autre parler d'eux, tu sais, c'est comme si on te dit du bien d'amis, quoi. Donc, t'es contente et ça t'émeut. Et moi, ça beaucoup d'émotions.
Mais rien que ces premières lignes, déjà, quand on a lu, moi, j'ai lu les extraits qu'Alice m'a envoyés, je trouve que ça prend à la poitrine quand même. Déjà, bon, il y a une petite fille dans l'histoire, donc forcément, ça prend un petit peu. Mais c'est très doux et en même temps, c'est brutal. Je sais pas. Parce que le sujet est terrible, mais apporté avec beaucoup de douceur. C'est très joli.
J'espère.
Je trouve ça très joli. J'ai hâte de le lire.
Donc, ce prochain roman qui paraît donc demain, puisque cet épisode va être diffusé le 6 mars, est-ce que tu peux nous le pitcher, Serena, s'il te plaît?
Je vais donc essayer. C'est l'histoire de Valentina, qui est wedding planner sur le lac de Côme. Elle organise des mariages autour de ce lac sublime. Mais elle vient aussi de perdre sa meilleure amie, Azzurra. Donc elle est en plein deuil et elle va devoir continuer à organiser le plus beau jour de leur vie à ces couples qui lui font confiance, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut reporter. Donc elle est tiraillée entre cette douleur immense et l'envie de raconter son histoire d'amitié avec Azzurra à sa filleule Bianca. Bianca, je ne sais pas pourquoi je l'ai prononcé à la française, pardon.
Azzurra, Bianca,
Azzurra, Valentina. Bianca, Valentina. Et donc, et ces nouveaux, et ces couples qui sont là pour un jour merveilleux qu'elle doit organiser. Donc, voilà, c'est un peu les montagnes russes des oui. émotions.
Et moi je disais tout à l'heure que je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé ce côté effectivement poignant, touchant du deuil qu'elle fait par rapport à son amie, et puis qui est allégé par ces quiproquos, ces émotions, ces mariages, tout ce qui se passe qui est un peu hyper drôle. Enfin, on passe très facilement du rire aux larmes en fait, puisqu'on a des scènes pas comme les mariages hein, quand il y a des réunions de famille.
Oui, voilà.
Il y a toujours des choses un peu ouais.
inattendues, disons.
Ouais, c'est ça. Et puis on a l'histoire qui est racontée par Valentine à sa filleule, qui retrace un peu leur vie à toutes les deux en fait, leur amitié depuis le début. Et c'est j'avais justement deux questions par rapport à ça. Alors la première, est-ce que tu t'es inspirée de ta filleule à toi pour la petite?
De ma nièce, donc. Tu veux
de
dire.
Ma nièce, du coup.
Ma nièce est née il y a un an. Ouais. Et à sa naissance, je lui ai créé une boîte mail.
C'est vrai?
Donc, c'était avant, oui. Parce que je suis plutôt nulle avec les mots dans la vraie vie. Et je suis plus douée pour les mots écrits. Et je me suis dit, c'est ma première nièce. Et j'avais très envie qu'elle sache vraiment tout le bonheur que je ressentais. Et donc j'ai créé une boîte mail avec l'idée de lui écrire de temps en temps et de lui livrer ensuite tout ça à ses 18 ans. Et bien évidemment, ça m'a inspirée, je me suis dit ça pourrait être sympa dans un roman. Mais c'est effectivement sa naissance qui m'a donné une idée, enfin une clé de l'histoire de Valentine.
C'est génial. Mmh. Ah, je savais pas que c'était vrai cette idée de, enfin que tu l'avais fait dans la vraie vie.
Oui, je l'ai jamais dit. Tu es la première à qui je l'ai dit. Donc
bah,
même,
super.
Même ses parents ne sont pas au courant, donc tu vois, ils vont découvrir.
Ils vont vouloir que tu leur donnes la boîte mail du coup.
Ouais, non, j'en ai pas parlé. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait en me disant ça peut être un joli cadeau à recevoir à 18 ans. Et puis c'était très égoïste au départ parce que j'avais vraiment, je me dis bon. J'ai vraiment beaucoup de mal toujours à exprimer mes sentiments à voix haute et alors j'essaye de le montrer par des actes, mais j'ai du mal, tu vois, à dire je t'aime, à dire, dire ces choses-là, donc je préfère écrire. Et donc je lui écris régulièrement.
C'est super beau, je trouve. Même de l'évolution, ben forcément tu vas décrire ta vie, sa vie, et puis waouh, c'est super. C'est une super super idée. Et aussi par rapport au roman, je voulais te poser la question parce que c'est la première fois, si je ne me trompe, où ton roman se passe au nord de l'Italie.
Au nord, oui. Ah. Disons que j'ai fait cinq romans sur la Campanie, si tu veux. Je me dis, à un moment donné, peut-être qu'on a fait changer. Le tour. Il y a tellement d'autres jolis coins à voir. Alors, on retourne quand même un peu dans le sud. Alors, pas dans la Campanie, mais en Sicile, dans le roman. Mais j'avais envie d'explorer d'autres coins. Alors, il y a aussi un coup de soleil où il y a une partie qui se passe à Venise.
Oui.
Mais effectivement, l'essentiel de l'histoire se passait encore à Salerne. Là, on est complètement ailleurs.
Ça t'a pas fait drôle d'écrire sur le nord, du coup? Parce qu'il y a la guéguerre nord-sud en Italie.
Non, moi, vraiment.
Toi, tu l'as pas.
J'allais dire ça, mais c'est complètement faux. Parce que je dis souvent aux gens qui viennent me voir, notamment en dédicace, et qui disent, je connais bien le nord, mais pas le sud. Je dis, non, vous ne connaissez pas la vraie Italie. Donc, évidemment, que je fais partie de la guéguerre. je suis totalement hypocrite, là, dans ma réponse. Donc, si, mais j'adore. Alors, je trouve que l'Italie, c'est nul de dire ça en vrai, je devrais pas dire ça comme ça, mais l'Italie la plus authentique, elle est au sud.
Oui, je suis d'accord.
Le nord de l'Italie ressemble en fait beaucoup à la France. Alors, c'est magnifique, il y a des coins merveilleux, mais la vraie ambiance à l'italienne,
oui,
elle est plus
fait.
En bas. Tu vois, il faut descendre.
Oui, 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 mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Je suis un mélange des deux, moi, du coup, effectivement. Je comprends tout à
voilà,
fait.
Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais il y a des merveilles partout en Italie, c'est vraiment un pays tellement, un peu comme la France, tu vois, chaque région a ses spécialités, ses paysages, ses presque sa mini culture dans chaque région. Il y a tellement de choses à découvrir que j'étais ravie de déplacer mes personnages, enfin de les mettre ailleurs cette fois. Donc non, j'ai aucun problème avec ça, même si je continue à dire allez au sud, enfin, vous allez tellement kiffer.
Bah là, tu vas leur donner envie d'aller visiter le lago Lico, au moins.
Bah oui, j'espère. C'est un endroit merveilleux. Alors il faut y aller hors saison, absolument, mais c'est un endroit merveilleux que je vous souhaite de découvrir.
Une autre actualité que tu as, c'est ta BD dont on a parlé tout à l'heure avec Matou. Alors, Nina et Bruno.
Oui.
Parfait.
Je l'ai fait entraîner.
Super. Tu arrives à faire la R.
Oui, mais c'est un peu comme l'espagnol.
Justement. Oui. Ça ressemble à l'espagnol, mais j'ai appris récemment en story grâce à une lectrice que les Français ont du mal avec la R italienne, ce R là, parce que c'est complètement inexistant dans la langue française. Donc vous n'avez pas l'habitude de positionner la langue de cette façon. Non. Donc c'est pour ça que certains ont du mal.
J'ai adoré d'ailleurs ta vidéo avec Matou.
Qu'est-ce qu'on s'est marré.
C'était très très drôle.
On s'est marré alors qu'on était au bout du rouleau parce qu'on avait signé 800 exemplaires en 2 jours.
Ah oui.
Et on était épuisés. C'était quand même un moment extraordinaire.
C'était très drôle. Et donc cette BD, d'où t'es venue l'idée en fait de cette histoire?
Alors c'est un livre jeunesse. Alors c'est pas vraiment une BD, mais c'est une histoire illustrée, on va dire. Et d'où j'avais très envie d'écrire pour les enfants, d'avoir ce public-là, tu vois, ces retours-là. Moi, je suis vraiment accro aux retours de lecture. Et je me dis, les enfants sans filtre à cet âge-là, mais c'est génial parce qu'ils vont me dire c'est nul ou c'est trop bien, tu vois. Il y a rarement de juste milieu. Et j'avais envie de leur faire, à eux aussi découvrir l'Italie, de leur donner envie d'y aller, et puis de leur apprendre quelques mots en italien. Et puis j'avais très envie de me faire plaisir avec un personnage, notamment avec Bruno, avec un personnage un peu grognon. Et je me dis ça, les enfants, ils devraient kiffer, tu vois, parce que j'ai donné à ce chat tout ce qu'un enfant peut ressentir, la jalousie, l'envie de, tu vois, quand ils vont visiter, les enfants, ils ont pas envie de marcher, ils ont juste envie de manger des glaces, de râler, et voilà, quoi. Et donc, Bruno a tout ça. Et je me suis dit, ça devrait, je voulais les faire marrer, en fait. J'avais pas très envie d'une histoire forcément avec une grande morale ou, j'adore les livres pour enfants qui en ont, hein, mais moi je voulais qu'ils se marrent un peu le soir dans leur lit, les imaginer pouffer de rire avec leurs parents ou tout seul, et j'avais très envie de ça. Donc j'ai la chance d'avoir une maison d'édition qui suit mes délires sans trop se poser de questions. Je me dis bon, si tu penses que ça peut le faire, on y va. Et voilà, j'ai pensé au dessin de Matou qui a accepté l'aventure. Et on est ravis, là. Il est sorti depuis une semaine. On a plein de retours et plein de photos d'enfants, de vidéos. Je trouve ça génial. Et j'ai déjà eu l'idée de la prochaine ville et on commence déjà à y travailler. J'espère faire plein de villes et d'emmener les enfants un petit peu partout. Et surtout de les rencontrer en dédicace. On aimerait faire des ateliers avec Matou. Les enfants où elle apprend à dessiner le chat et moi à dire quelques mots. Alors, je le dirai pour parents, mais ce sera peut-être des gros mots, je ne sais pas.
En italien.
ils y verront que du feu. Mais j'ai très envie de ces rencontres-là.
Oh, c'est super. Mmh. Ouais, du coup, effectivement, tu nous as un peu dit ce qu'on a demandé à Matou parce qu'elle n'a pas voulu nous lâcher la
semelle. Oui, elle m'a dit, je ne savais pas si je pouvais le dire.
Elle a dit probablement.
Elle m'a écrit après paniquer. Du coup, elle m'a posé la question, je savais pas. Mais si, on peut y aller.
Non, mais j'ai cru qu'à un moment donné, vous aviez dit un truc où il y avait quelque chose d'écrit, comme quoi, effectivement, ça serait le début d'une aventure. Et du coup, je me suis fait la remarque qu'il y avait à avoir des suites. Et puis là, Nina, elle visite une ville, c'est Rome, là, du quad, le premier.
Oui, la première, c'est Rome, ouais.
Voilà, et donc je me dis peut-être qu'elle va visiter d'autres villes.
Oui, c'est ça. J'aimerais faire un tome, une ville, et le deuxième devrait, a priori, sortir avant la fin de l'année. Donc,
ouais, bon, mais c'est génial.
Ah, trop bien. Et on peut avoir la ville ou non, c'est trop tôt.
Non, vous abusez là.
En fait, tout ça va. Bon, moi, je lance des paris sur Venise.
Naples.
Okay.
Naples. Ah,
tu peux peut-être que quelqu'un a raison.
Ah, ok.
Ah bon, ben on a l'info du coup. Moi, je voulais te demander pour cette dans cette histoire, est-ce que tu t'es inspirée de ton chat que ceux qui ne connaissent de pas Mila. Encore Reine Mila
de mon chat psychopathe. Alors bien sûr, je me suis inspirée de Mila parce qu'elle est vraiment. Tu sais que j'avais fait un sondage sur mon Insta et les gens m'ont clairement avoué qu'ils s'en foutaient de moi, de mes histoires, de mes bouquins, parce que je leur racontais. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est voir Mila et les histoires de Mila. Ouais. Donc bon, je le prends pas super bien. Hein, je vais pas tout le monde. Mais moi, j'adore cette chatte qui me déteste. Et tu sais que je la garde parce que je l'aime, mais au départ elle était tellement mauvaise que ce qui m'a fait tenir, c'est qu'elle est née le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Okay. Qui n'est plus là depuis 12 ans, et elle est arrivée dans ma vie 2 ans après, et vraiment personne n'en voulait de ce chat parce que c'est Satan en fait, si tu veux. Donc et moi je me dis, bon, il y a forcément un signe, c'est ma grand-mère qui... Donc ça fait 10 ans que je me la coltine en me disant que c'est un signe. Alors peut-être que ma grand-mère ne m'aimait pas tant que ça, finalement, c'est ce genre de signe qu'elle m'envoie. Mais elle, je l'aime beaucoup parce qu'elle est bougonne et puis elle est un peu agressive et elle a un truc de queen, tu vois. Elle est là, elle règne sur tout le monde et puis nous, on est ses petits esclaves. Donc bien sûr que Bruno a beaucoup de Mila, mais il est aussi beaucoup plus attachant en vrai. Elle n'est pas câline du tout.
Ah oui, d'accord.
Non. Alors que Bruno, il est quand même hyper attaché à sa petite humaine. Il est grognon et il râle beaucoup, mais il est gentil. Alors que Mila, elle est méchante de bout en bout.
Mais peut-être que Mila est gentille et qu'elle veut pas que tu le saches.
Certainement. Ben, franchement, elle s'est réussie. Parce que du coup, j'ai pas du tout d'indice qui indique un minimum de gentillesse, tu vois.
Mais je pense qu'elle est attachée parce que tu nous dis qu'à chaque fois que tu fais ta valise, elle vomit dedans. C'est parce qu'elle veut amener un peu de. Oui. Un peu de.
Ah, ouais,
avec toi, tu vois.
À chaque
clairement,
fois.
Clairement. Ah, ben souvent, elle, ben, si elle vomit pas, elle pisse. Donc, tu vois.
Pour moi, c'est un signe quand même.
Ah ouais.
Ben, elle déteste. Après, elle déteste que je sois pas là. Donc, moi, au départ, je prenais ça plutôt pour un compliment, tu vois. Mais non, c'est parce que vraiment, elle aime bien nous avoir à sa disposition, un peu comme ça court, tu vois. Quand elle a besoin de quelque chose, il faut qu'on soit là à dispo. Donc, c'est pas tant ma présence qui lui fait plaisir que je. Enfin, il faut juste que ses besoins soient.
Soumis,
oui. Ouais, soumis tout de suite.
Tout à fait, tout à fait. Elle a déjà, d'ailleurs, en plus, Mila, elle a un compte Insta, elle a une vraie.
Elle avait, non, je l'alimentais plus, donc j'avais fini par le retirer.
D'accord.
Mais oui, c'est clairement un personnage. Je l'aime trop, mais c'est pas réciproque, si tu veux.
Même les poses. Les poses qu'elle prend sur les photos,
oui.
Elle est excellente.
C'est
le dédain, le mépris.
C'est vrai. Ouais. Le dédain, exactement.
Un peu,
elle se prend vraiment. C'est un vulgaire chat de gouttière. Enfin, je l'ai récupéré quand même chez une femme qui, sa mère ne l'a pas allaité. Alors, il y a certainement, il faudrait que je l'emmène chez une psy. Hein. C'est quelque chose qui explique ce comportement. Elle n'est pas née comme ça. On ne s'est pas bien occupé d'elle, bébé. Mais personne n'en voulait. Enfin, elle ronronne jamais, à part avec mon fils. C'est vraiment, il y a tout ce qu'un chat t'offre normalement, tu vois, en échange de bons soins. Mais moi, je l'ai pas. Donc, il n'y a pas les ronrons, il n'y a pas les câlins, il n'y a pas de. Non. L'autre jour, je faisais du sport à côté d'elle. Elle s'était mise sur un pouf à côté de moi. Et à chaque fois que je passais, je faisais des petits runs comme ça, elle me faisait des croches. Je vous jure, elle me faisait des croches pattes. Je pense qu'elle essaie de me tuer. À chaque fois que je passais à côté d'elle, elle me mettait un coup, quoi. Donc, vraiment. Bon.
Et malgré ça, tu l'aimes toujours?
Ah, mais je l'adore. Franchement, je pourrais pas vivre sans elle. C'est ma vie. Et je lui dis, t'es belle, t'es douce, t'es gentille. Tu vois, j'essaye en plus de faire ce truc positif.
Non, mais t'es
chouette. Ça ne fonctionne pas du tout.
Mais en fait, vous avez un peu une espèce de syndrome de Stockholm avec vous. J'ai l'impression.
Ouais. C'est complètement ça. Même mon mari qui pouvait pas la saquer au départ parce qu'il dit, mais attends, ça c'est pas un chat, tu veux, qu'est-ce qu'on va faire de cette chose? Eh bien, je l'entends, tu vois, quand on est pas dans une pièce, je l'entends, ça va, ma fifi. Comme lui a succombé, on sait pas comment elle fait ça.
On a cette roman graphique, on va dire, qui oui. va nous parler un peu plus de un petit peu quelques aspects de Mila, mais surtout le voyage avec oui. Nina, parce que c'est ça le but aussi.
Mm-hmm. Oui, le voyage et puis la découverte, tout ce que les enfants, enfin là dans le tome sur Rome, je donne des petits tips à faire avec les enfants, oui. si si on part en voyage, et des choses à goûter aussi, et en plus une histoire d'amitié, voilà, aussi, là encore, finalement, entre un chat et Nina. Et
il y a des mots.
Et je les aime bien, ces deux-là. Et il y a des mots, et à la fin, il y a un petit lexique. Alors, je voulais vraiment un lexique, tu vois, qui correspond aux enfants. Donc, par exemple, c'est j'ai envie de faire pipi, ou j'ai envie de faire une sieste, ou je veux de la glace. Enfin, vraiment des mots d'enfant, pour le coup.
D'accord.
Qui devraient leur être utiles.
Donc, c'est une histoire plus une aide pour apprendre la langue. C'est parfait.
C'est ça. Voilà. Une initiation à la langue.
Ouais, c'est super.
Une autre question. Comment viennent tes idées de romans? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça défile un peu dans ta tête. Tu as une vision assez particulière de ce que tu veux, comme un film qui se déroule.
Bah, disons que j'ai un point de départ en général. Là, tu vois, par exemple, j'ai l'idée du prochain déjà qui est venu à la fin de l'écriture de Felicita. J'ai l'idée d'un, il y a un lieu, souvent en premier, un lieu et puis une situation, un début d'histoire pour Felicita. J'avais donc le lac de Côme et la perte de un deuil. Et ensuite, je me dis, bon, ok, ça c'est le point de départ. Et pendant plusieurs mois, je prends pas de notes. C'est comme si chaque jour, un élément venait s'ajouter à l'histoire et les personnages qui viennent à moi, qui se présentent. Ouais, c'est assez. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est. Il s'impose dans ma tête à un moment donné. Je me dis, tiens, avec lui, je pourrais faire ça. Elle, je pourrais l'emmener là. Et puis, ouais, ça commence à s'écrire. Et je commence à avoir ces images, donc à visualiser ce qui pourrait se passer. Mais en vérité, l'histoire telle que vous la lisez au final, je la découvre, moi, en l'écrivant. Donc, assez tard, finalement, après plusieurs mois de réflexion sur le début. En fait, je découvre l'histoire au fur et à mesure que je l'écris, parce que je fais pas de plan, je ne sais pas où je vais, je connais pas la fin. Un jour, je me dis bon, il est temps de se mettre à écrire, et là, ben, j'y vais. Et souvent, je découvre d'autres personnages au fur et à mesure de l'écriture, des situations que j'avais pas du tout prévues au départ. Donc, c'est super parce que mes personnages me surprennent. C'est tous les jours l'aventure, et puis ça dépend de plein de choses, de mon humeur du jour, de la météo, tout ça joue. Le même chapitre écrit à deux jours différents ne serait pas le même. Donc je la découvre en même temps que je l'écris, et souvent j'ai la fin. Là, par exemple, pour Felicita, je l'ai eu à plus de la moitié. Enfin, j'ai eu l'idée de la fin à plus de la moitié de l'histoire, quoi. Donc je sais pas trop où je vais, mais ouais, j'ai ces images, je sens que c'est comme un cocon, je crée un cocon avec eux au départ et je me dis bon, on est bien ensemble, on y va, on prend la route, on sait pas où on va mais on y va.
Tu les amènes.
C'est la bonne de potes, tu vois. Je me dis ok, je vous fais confiance, on peut passer un bon moment ensemble. Et je les emmène, ouais. Ou eux ils m'emmènent plutôt.
Et le lieu, j'ai l'impression qu'il est très important à chaque fois dans tes romans.
Oui, ou plus ou moins important. Par exemple, dans Luna, Naples est vraiment un personnage à part entière de l'histoire.
Oui, tout à fait.
Là, le lac, j'avais très envie d'un endroit hyper photogénique pour les mariages. Je me dis, mais le rêve de fou de se marier au lac de Côme, tu vois. Et donc là, le lac en lui-même n'est pas, c'est important pour le visualiser, pour imaginer ces mariages somptueux. Mais il est moins important que dans un autre roman. Disons que ça me permet de poser les bagages avec mes héroïnes quelque part, et puis d'installer le décor. Mais c'est vrai que par rapport, oui, à Luna ou à Sarapel Ketiam aussi, il y avait ce côté un peu à huis clos sur une petite île qui est proche. Il y avait un peu ce truc, tu vois, d'être au milieu de nulle part sur cette île. Là, un peu moins, mais c'est important, c'est sûr que c'est important.
Par rapport à donc, comme j'ai lu le livre, on parle de mariage, donc il y a essentiellement trois mariages qui sont mis en avant. Donc, très moderne, j'en dirai pas plus, mais je voulais savoir si tu t'es inspiré de vrais mariages auxquels tu avais participé, ou ou des vraies histoires qui ont amené à un mariage ou autre chose, parce que je les trouve très, je sais pas, très, très vraies, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais comme si tu les avais vécues.
Eh ben, ça me touche beaucoup parce que pas du tout.
D'accord, bah écoute, c'est parfait.
Non, toutes ces situations, et là encore, j'avais une idée, j'avais l'idée des trois couples au départ en me disant tiens, ça me permettra d'évoquer tel ou tel sujet qui me tient à cœur.
Tout à fait,
ouais. Mais le livre, donc voilà, il se passe autour de trois mariages, mais j'avais pas la chute pour chacun. Je l'ai aussi découverte en l'écrivant et j'ai moi-même découvert le mariage quand il a eu lieu finalement. Tu vois, je serais comme si je faisais partie des invités. Mais non, j'en ai pas vécu d'aussi sympa, si je puis dire. Enfin, c'était plutôt le mariage classique auquel j'ai assisté.
Ouais. Il n'y a pas eu de scène bizarroïde.
Non, c'était plutôt classique. Super, d'accord. Mais classique.
Et le bonus. Alors, tu me disais tout à l'heure un offre qui a un bonus, c'est ça?
Alors, il y a un bonus, effectivement, qui n'est pas dans le livre. Alors, il y a deux choses. Mais en fait, je ne sais pas si je peux le dire sans spoiler.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Alors, il y a effectivement un bonus. Il y aura plusieurs façons d'avoir ce bonus.
D'accord. C'est-à-dire,
il faut voir en dédicace, par exemple. Oui. Parce que il y aura un QR code, en fait. Donc, faudra scanner, d'accord, pour avoir accès à ce bonus. Oui. Alors, il y aura la version écrite et la version audio aussi, puisque j'ai enregistré, moi, le livre audio et le bonus. Et donc, on aura accès aussi à l'audio. Je trouvais ça sympa d'avoir cette version-là aussi, ouais. Donc, en venant me voir en dédicace ou en écrivant aux héroïnes, parce que toi qui l'as lu, tu sais qu'il y a une histoire d'adresse mail.
Excellent!
Ouais. Ah ouais, c'est un vrai mail alors.
C'est des vrais mails, ouais. Ils ont créé les mails et donc ils existent et les lecteurs pourront écrire aux héroïnes s'ils en ont envie. Et en retour, ils pourront avoir le chapitre bonus.
Oh, mais c'est trop bien.
Oh, c'est génial.
C'est toi, tu disais que tu as enregistré tout le livre audio, tu l'as lu?
Oui, je l'ai lu, c'est mon, Luna.
Quatrième
que je lis, ouais. J'avais commencé avec Luna parce qu'il y avait beaucoup de passages en napolitain que j'avais pas envie qu'on me...
Oui.
Macage. Voilà. Et donc, je me dis, bon, à moins de trouver une actrice qui parle italien, napolitain et français. Et puis plusieurs lectrices aussi me disaient souvent en écoutant mes stories, j'aime bien ta voix. Alors que moi, j'ai toujours détesté ma voix, tu vois. Comme quoi, me disent ta voix m'apaise. Souvent, je mets tes stories en fond et puis je t'écoute. Je dis c'est fou ça. Et je me dis peut-être que ça pourrait le faire si je l'enregistre. Donc c'est un exercice pas du tout facile. Donc j'avais essayé pour Luna, ça avait plutôt bien fonctionné et j'y ai pris goût, mais à mort. Donc depuis, je les enregistre tous et là, je viens de tourner d'enregistrer Félicita il y a quelques semaines et le bonus aussi. Et donc, on pourrait avoir les deux versions.
Ah, c'est génial. Moi, j'adore quand c'est les auteurs qui lisent leur livre. Je trouve
c'est pas simple parce que c'est vraiment un exercice. Enfin, c'est des acteurs qui font ça. Moi, je suis pas du tout actrice. Alors, le rendu n'est pas du tout pareil. Hein. Et je crois que les lecteurs n'attendent pas la même chose que d'une lecture d'un auteur et d'une lecture d'un acteur. C'est vraiment deux lectures différentes. Mais effectivement, a priori, on est mieux placé pour savoir quelle intonation avoir. Après, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. T'as des auteurs qui sont qui n'y arrivent pas. Juste parce que c'est vraiment un exercice en plus de concentration et de. C'est pas simple, mais je suis trop contente de le faire. Et puis j'ai des bons retours des auditeurs, donc c'est chouette.
Le QR code, il sera pas sur le livre, donc il faudra te voir en dédicace. Ok.
Voir en dédicace ou écrire,
ou envoyer
aux héroïnes. Voilà, il y aura plusieurs façons de l'obtenir. Alors, c'est vraiment pas quelque chose que je garderai précieusement.
Oui.
Je le partagerai avec plaisir. Et c'est vraiment un plus pour ceux qui ont lu l'histoire. C'est un peu pour prolonger.
Rester un
moment.
Petit peu avec. Oui, tout à fait. Et puis donc, il y aura. Tu me disais tout à l'heure, il y aura un autre mariage, c'est ça?
Voilà, en fait, c'est pas un chapitre supplémentaire, c'est un mariage supplémentaire.
Ouais.
Donc, avec deux nouveaux personnages, deux nouveaux mariés, quoi.
Ouais, mais c'est bien. Écoute, est-ce que on peut parler de ta promotion? Du coup, tu vas faire de la promo, des salons, t'as beaucoup de dates, j'ai cru comprendre.
J'ai beaucoup de dates. J'avais dit que cette année, j'ai levé un peu le pied, évidemment, pas du tout. c'est difficile de dire non. C'est déjà une telle chance d'être invité dans une librairie, un salon, et dans un petit beau salon, et que c'est compliqué de dire non. Et puis c'est une façon d'accompagner mon roman, de pas lui lâcher la main tout à fait, d'être avec lui, et puis d'aller à la rencontre évidemment des lecteurs. C'est super les réseaux sociaux, d'avoir des échanges tous les jours avec ceux qui me suivent, mais de voir les gens en vrai, de voir l'émotion sur un visage, puis les choses qu'on se dit comme ça, les yeux dans les yeux, c'est évidemment autre chose que des messages écrits. Et c'est du carburant, pour nous qui écrivons, et c'est donc c'est nécessaire, c'est épuisant pour moi, c'est pas un exercice facile du tout. J'étais pas du tout à l'aise au départ. Ça va de mieux en mieux. Mais je ressors de là complètement vidée à chaque fois, et puis c'est intense, c'est un rythme. Là, j'ai tous les week-ends quasiment qui sont pris jusque mi-juin.
Oui.
Donc ça veut dire aussi beaucoup de déplacements, etc., et être moins présente à la maison, mais ça fait partie du job et je suis ravie de pouvoir le faire. Donc oui, c'est reparti. Trois gros mois de promo et de dédicace partout en France.
Bon, en tout cas, nous on a hâte de te voir. En plein de salons, c'est ça aussi?
C'est ça, beaucoup de salons, Paris, Bondu, Bruxelles.
Ah oui.
Moi j'en ai quelques-uns.
Tu voyages pas mal cette année.
Oui, ouais, beaucoup de trains. Bon, les trains, c'est devenu. C'est un peu l'angoisse parce que c'est.
Ah oui.
Bon, c'est comme ça. Mais,
Oui, ça te fait des gros. C'est pas proche, c'est effectivement certaines vies.
Disons que pour 3 heures de dédicace, je pars 2 jours souvent. Tu vois, à Bordeaux, clairement, je peux pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc ça veut dire que c'est 2 jours de déplacement. Et bon, voilà, mais je me plains pas du tout. C'est super. Mais juste, parfois, je suis un peu frustrée par les gens qui sont déçus de pas me voir dans leur ville. Mais je me dis, ils réalisent pas à quel point c'est compliqué.
Oui, bien sûr.
Une dédicace. Et déjà, on se pointe pas dans une ville en disant bonjour, c'est moi, mes livres, et je viens signer. Enfin, c'est toute une organisation, ça coûte de l'argent au libraire, à la maison d'édition, il faut qu'il y ait un public, il faut qu'on soit sûr que voilà, que l'auteur ne se retrouve pas tout seul derrière sa table, il faut que et c'est vraiment une organisation de plein d'agendas qui doivent pouvoir se faire, c'est hyper compliqué. Et donc je comprends, enfin, ça me fait plaisir de savoir que les gens ont envie que j'aille les voir chez eux, mais c'est toujours un peu frustrant quand on dit oui mais tu viens jamais à
truc
sur machin, tu vois, donc ok, mais alors que bon, j'essaie d'aller un petit peu partout, mais c'est pas évident, évidemment. Il y a vraiment 2 lecteurs différents, je trouve, en librairie et en salon. C'est pas du tout le même type de lecteur, et c'est pour ça que c'est super intéressant de faire les deux. En salon, il y a beaucoup de lecteurs qui viennent découvrir des nouveaux auteurs et qui sont là pour justement faire des découvertes. En librairie, c'est plutôt des lecteurs fidèles ou qui connaissent déjà ou qui font hyper confiance à leur libraire, tu vois, qui s'en remettent à eux. Et les libraires comme ça qui ont une clientèle vraiment qui connaissent parfaitement l'histoire, par exemple, il y a cette autrice qui va venir, tu vas l'adorer, ils viennent, ils leur font confiance. Et pour nous, c'est hyper précieux, ça.
En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès pour Félicita.
Merci.
J'espère qu'il va
cartonner. Tanta Félicita. On peut souhaiter Tanta Félicita. Ah ben oui.
Tanta Félicita, c'est le bonheur,
c'est la joie. grazie.
Et qui sort demain, donc?
Demain. J'aimerais bien, en vrai. J'attends encore un peu.
Et puis, ce soir, dédicace dans ta librairie, du coup, on le fait.
C'est ça, chez Isler à Metz, tout à fait.
En avant-première.
En avant-première.
Merci beaucoup, Serena.
Merci à vous deux, c'était super. Merci beaucoup.
Merci à tous nos auditeurs. J'espère que vous découvrez pas Serena, c'est pas possible, vous la connaissez déjà. Mais j'espère que ça vous a donné envie de découvrir son prochain roman, en tout cas.
Si vous n'êtes pas arrêté juste à mon chat psychopathe.
Non, mais en vrai, Serena, c'est aussi son chat psychopathe, c'est tout ça. C'est plein de choses.
C'est vrai.
On te laisse conclure, Serena.
C'était Serena Giuliano. Et vous avez écouté chapitre 2.
Chapitre 2, le podcast qui parle livre,
Chapitre 2.